Préparez vos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Évangile de Jean, chapitre 14. Vous souvenez-vous de ce dont on a parlé la semaine dernière l'après-midi? Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient là? Est-ce qu'il y avait des personnes qui se souviennent de ce dont j'avais parlé? Le retour du Seigneur, oui. Et j'avais parlé tout spécialement, non pas de comment il va revenir, mais de quoi d'autre? L'attitude de cœur pour attendre le Seigneur. Si nous savons que Jésus revient, il faut l'attendre. C'est quelque chose de biblique. Dans la parole de Dieu, il est dit de se préparer au retour du Seigneur, de se préparer à la rencontre de son Dieu. Et Jésus revient. Et j'ai parlé de diverses attitudes et j'avais dit que c'était qu'une introduction. J'avais vu plusieurs points et je voudrais voir, eh bien, méditer un peu le premier point avec vous. Qui se souvient de la première chose que j'avais dit? Vous vous souvenez plus? Je vous fais une lecture de rappel, donc ce n'est pas ce que je vous ai dit de préparer. Je vous lis quelque chose. Le prochain texte sera Jean, et je dirai la référence. Mais d'abord, je vous fais une lecture. C'est dans Actes chapitre 1, ce que je vous lis là. Les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Mais, et qu'est-ce qu'il a dit alors? Il voulait savoir quand il reviendrait. Jésus a dit, « Je reviens. » Mais pour m'attendre, voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il vous faut? La suite, c'est quoi? Qui se souvient? Qui connaît ce texte, sinon? De quoi Jésus va parler, là? La puissance du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Et j'avais fait remarquer que la première réponse de Jésus à ceux qui disent « Mais comment, quand est-ce que tu vas revenir ?» Il dit « C'est pas à vous de savoir quand je reviens. Par contre, pour m'attendre, pour être bien prêt, vous allez recevoir... » une puissance, celle du Saint-Esprit, qui se viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Mes témoins. Jésus, la première chose qu'il dit, pour bien m'attendre, il faut que vous deveniez des témoins et que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Et c'est la première chose dont je m'entiens, enfin, c'est la chose pour laquelle je veux m'entretenir avec vous cet après-midi. Le Saint-Esprit est plus précisément le baptême dans le Saint-Esprit. Êtes-vous baptisé dans le Saint-Esprit? Il y a Madame Boyer qui est sûre d'être baptisée dans le Saint-Esprit et elle a raison, elle a raison. Est-ce que vous savez quand vous vous prenez un électrochoc en mettant les doigts dans les prises? Est-ce que quelqu'un s'est déjà électrocuté? Un jour j'ai démonté un radiateur, j'étais jeune, j'étais pré-ado, je suis encore jeune, hein. Mais j'étais pré-adolescent et je me suis dit comment ça marche un ventilateur. Un ventilateur et tout. Et j'ai tout démonté, pièce par pièce, tout ça. Et puis à un moment, j'ai pris le mât qui tourne, l'axe, je l'ai pris, et j'ai dit, oh là là, et je le tenais comme ça, le moteur. J'étais sur mon lit, un lit en barreau électrique, en barreau de fer, vous voyez? Et puis j'étais là, je tenais, et je le branche, et j'ai dit, je vais voir si ça tourne, ça tourne. Oh, je remarque que ça tourne. Alors j'ai dit, je vais tenir la carcasse, voilà. Et j'ai pris d'une main, et j'ai appuyé sur le bouton on, et au bout d'un moment... ça tournait, j'étais content, je dis « Ah, ça marche comme ça, tout ça. » Et j'ai posé ma main sur sur l'armature en fer du lit. Comme ça. J'ai pris un coup de choc, un électrochoc, comme on dit. Mais ça m'a saisi d'un coup et heureusement, ça m'a donné de lâcher. Et là, le ventilateur est tombé. J'ai de suite fait ça, j'ai tout éteint, tout débranché. Ça m'a surpris et j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'allais mourir, j'étais là, j'ai dit « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» J'avais pas les cheveux comme dans les dessins animés, mais je savais que j'étais électrocuté, vous savez ? Je le savais, c'est quelque chose qui m'a parcouru dans tout le corps, ça m'a saisi d'un coup. Et bien, j'aimerais dire que le baptême dans le Saint-Esprit, quand on l'est, quand on l'a reçu, pour la première fois, on le sait, ça se remarque, on le sait. Parce que c'est comme si vous vous trouvez face à face avec Dieu, dans sa présence. Un Dieu tellement saint, tellement puissant, tellement grand que ça peut pas passer inaperçu, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Saisi par la présence de Dieu. Et dans tout le corps, on sait que le Seigneur est là. Est-ce que vous avez déjà été visité par le Seigneur? Le jour où vous avez été convaincu de péché. Ah. Qui a fait ça? Qui convainc de péché? Le Saint-Esprit. Est-ce que c'est passé inaperçu? Ou est-ce que vous l'avez su que vous étiez pécheur? Il n'y avait plus moyen de l'ignorer. Je crois qu'on le sait. On le sait. Et je ne veux pas tomber dans le sensationnel ou dans le sentimental, mais je veux rester dans le spirituel, dans ce qu'on sait de Dieu, ce que Dieu nous dit. Mais je crois qu'on ne peut pas passer outre, quoi. C'est quelque chose qui est là, ça change. On le voit, hein, les apôtres, juste après, on pourrait lire Actes, on va le faire un petit peu. Ça se voit, ils le savent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Ça se voit, ça se sait. C'est pas passé anodin. Et toutes les fois dans la parole de Dieu où les gens sont baptisés dans le Saint-Esprit, ça se voit, ça se sait. Ils ne peuvent pas dire « Oh, je ne sais pas trop ». Ça se sait. Ça se sait. Il y en a un, par contre, qui peut vous faire douter de l'expérience que vous avez vécue, parce qu'il y en a un qui est le tentateur, qui est le séducteur, qui est celui qui veut jeter du doute. Et lui, il veut vous faire douter de ce que vous avez vécu. C'est toujours pareil. Mais on sait quand même qu'il s'est passé quelque chose. Et si on s'appuie sur la parole de Dieu, on saura résister au diable, qui cherche à nous décourager. Amen. Donc voilà, j'ai refait un petit peu la lecture, je ne l'ai pas continué jusqu'au bout, mais ce n'est pas grave. Jean, chapitre 14, verset 16. Est-ce que Jésus a annoncé le baptême dans le Saint-Esprit? On va le lire. Jean 14, verset 16. Et moi, c'est Jésus qui parle, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit après? Car il demeure avec vous, mais il sera en vous. C'est là la différence. Il est avec vous et il sera en vous. Amen. C'est ce que Dieu veut. Il ne veut pas simplement qu'on soit visité, comme quelqu'un vient nous visiter chez nous. Vous savez, il fait un petit tour et puis il repart. Seigneur, il ne voudrait pas ça. Il ne voudrait pas qu'on vive avec des petites expériences ponctuelles avec lui. Il voudrait qu'on soit constamment en présence, en sa présence, en présence de Dieu, en sa présence, qu'on soit constamment habité par le Seigneur. Que dans notre cœur, il soit là au point que même nos pensées soient pleines de choses qui l'honorent, qui lui plaisent, de penser à lui, de penser à ce qu'il veut pour nous, de chercher sa face, chercher sa volonté. Il voudrait être en nous et pas simplement avec nous. Voilà. Jésus a annoncé qu'il y aurait le baptême dans le Saint-Esprit. Et il a parlé du Saint-Esprit comment? Il lui a donné un nom, c'est quoi? Le Consolateur. Ça vous fait peur, un Consolateur? Moi, ça ne me fait pas peur. Ça, c'est un titre, c'est un nom qui me rassure, au contraire. Le Saint-Esprit est un Consolateur. Ça donne envie de l'avoir avec nous, et de l'avoir même en nous. Quelqu'un qui nous console constamment. N'avez-vous pas besoin, quelquefois, d'être consolé? Moi, oui. Souvent, j'ai besoin d'être consolé parce que je me déçois. Ça vous arrive de vous décevoir? Et pourtant, le Seigneur, le Saint-Esprit, rappelle à mon cœur qu'il est tout prêt, je suis tout prêt à être pardonné. Lui est tout prêt à me pardonner. Il suffit que je confesse à nouveau mes péchés, que je me repente et que je revienne à lui. Un consolateur. Beaucoup de personnes ont peur du baptême dans le Saint-Esprit, ont peur du Saint-Esprit, toutes ces choses, etc. Mais pourtant, le Saint-Esprit est appelé le Consolateur. Et Jésus va dire un autre Consolateur, littéralement un autre moi-même, comme Jésus. Jésus en a parlé, et j'aimerais faire une différence spéciale entre le baptême dans le Saint-Esprit et une autre chose qu'on va voir maintenant, le fruit de l'Esprit. Deuxième point, Jésus en a parlé, c'était le premier point. Deuxième point, le fruit de l'Esprit. Portez-vous du fruit pour le Seigneur. Vous vous souvenez de cette image que Jésus a donnée dans Jean 15? Il dit « Je suis le vrai cep. Vous êtes les sarments. Et quiconque est attaché au cep, il porte du fruit. » Et Jésus il montrait qu'il faut être attaché à lui. Il faut rester attaché à lui pour porter du fruit. Et que son désir, c'est que l'on porte du fruit. Qui sait où c'est écrit ce qu'est le fruit de l'Esprit? Galates, chapitre 5, verset 22. Et qui connaît les œuvres de la chair? Galates 5, 19 à 21, il me semble. On va vérifier ça. Prenez avec moi Galates. Galates 5, 22. Et c'est bien de 19 à 21, les œuvres de la chair. Mais le fruit de l'Esprit, c'est au verset 22. Galates 5, 22. Il y a quelque chose qui se produit lorsque le Saint-Esprit est avec nous. Pas besoin qu'il soit en nous, avec la plénitude. Quand il est avec nous, il se passe quelque chose. Vous savez, il y a des gens, ils viennent pour la première fois dans l'église, et ils repartent et ils disent des choses. Ils disent, tiens, ça m'a donné, je ne sais pas pourquoi au milieu de vous, je suis joyeux. Ou il y a une paix. Vous savez, ça me donne la paix, ça me touche. Ou alors, je sens qu'il y a de l'amour parmi vous, etc. Il y a toutes sortes de fruits quand on est au contact du Saint-Esprit, au contact de gens remplis du Saint-Esprit. Il y a le fruit. Et ça, tout le monde, on l'a. Et c'est des bonnes choses, regardez. Galates 5, 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est 1. L'amour, 2. La joie, 3. La paix, 4. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Tiens, qu'est-ce que c'est la tempérance ? La maîtrise de soi. Voilà. C'est la maîtrise de soi, la tempérance. Est-ce qu'on n'a pas du mal à se tempérer des fois ? La température, elle monte. Et pour la faire baisser, il faut une clim intérieure. Voilà. Toutes ces choses. Au contact du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit vient me visiter, etc. Oui, c'est vrai, ces choses sont le résultat, le fruit du Saint-Esprit. Et ça, une fois qu'on est chrétien, le Seigneur nous donne de grandir, ça progresse en nous, ça c'est clair. Le fruit de l'Esprit, ça progresse en nous. Est-ce que quand je suis chrétien, quand je me donne au Seigneur, eh bien il n'y a pas de l'amour qui naît en moi ? J'espère. Pas besoin d'attendre de vivre l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit pour que l'amour naisse en moi. Est-ce que j'ai la paix de Dieu quand je confesse mes péchés et que je suis pardonné ? Ben oui. Est-ce que si je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit, je ne suis pas sauvé ? Est-ce que je suis sauvé si je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit ? Ben bien sûr. Donc, il faut séparer la conversion et le baptême dans le Saint-Esprit. Vous avez vu les disciples ? Ils se sont convertis à Jésus, etc. Après sa résurrection, il leur a tout expliqué. Ils ont ouvert les yeux sur la signification de sa mort et de sa résurrection. Ils ont compris que c'était annoncé, tout ça, etc. Ils ont cru en lui. Jésus leur ouvre l'esprit, ils comprennent. Mais il leur dit d'attendre encore, plus tard, autre chose, qu'il y aura autre chose. Et ça, c'est ce qu'on partage maintenant. Alors, il y a le fruit de l'esprit. Ça se passe. Et c'est en opposition avec les œuvres de la chair. On va le lire, tiens. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère. Oh, ça déplaît à Dieu, l'adultère ? Eh oui. Pourtant, dans notre monde, l'adultère, c'est commun. Je veux dire, même les autorités, ils passent d'un conjoint à un autre et tout. Pas grave. Pas besoin de se marier, etc. L'adultère. L'impudicité. Si on regarde un peu les affiches publicitaires. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voyez, je vous dis d'avance que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est très très sérieux. Il y a en opposition les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Le résultat de la présence du Saint-Esprit dans nos vies et en nous. C'est vrai. Est-ce que je porte du fruit une fois que je suis baptisé dans le Saint-Esprit aussi ? Est-ce que ça continue ? Bien sûr, même encore plus. Encore plus. Mais déjà, rien qu'au contact, il y a des choses qui se créent, qui se développent. Et je ne dis pas que quelqu'un qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit n'a pas d'amour, n'a pas de paix, n'a pas de joie, ne peut pas se maîtriser, etc. Donc, mais je veux bien dissocier. Il y a une œuvre qui se fait de toute manière, une fois que je me donne au Seigneur, par l'action du Saint-Esprit. Mais le Seigneur voudrait nous emmener encore plus loin. Il voudrait que l'on cherche le baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi ? Pour être des témoins efficaces. Pour être des serviteurs efficaces. Pour être des enfants de Dieu efficaces sur cette terre. Pourquoi Dieu nous laisse sur la terre ? Une fois qu'on est sauvé. Il pourrait dire, ouf, il est sauvé, je ne vais surtout pas le laisser devenir rétrograde ou douter, je l'enlève tout de suite, de toute façon on va au paradis, quoi de mieux. Il pourrait dire, allez, une fois qu'il est sauvé, je l'enlève. Pourquoi Dieu nous laisse ? Pour être des témoins. Seulement, il ne veut pas qu'on soit des petits témoins, avec une petite lumière, un lumignon qui fume. Il veut qu'on soit des flambeaux. Et quand on se réunit dans l'assemblée, c'est pour ça que j'aime les réunions, quand on se réunit, vous avez déjà pris une allumette ? Oui. Deux allumettes, côte à côte, et trois, et quatre, cinq. Vous avez vu comme ça change ? Et comme ça éclaire beaucoup plus loin ? Parfois, le Seigneur dit à une allumette d'aller à un endroit, parce qu'il fait nuit là-bas, et même si on était tous, il y a besoin d'allumer un nouveau feu ailleurs. Mais c'est parce qu'on va porter du fruit ailleurs, hein, et que d'autres vont s'ajouter. Mais en soi, le Seigneur veut qu'on aime les rassemblements, parce qu'il veut que ça brille fort. Et il veut nous remplir du Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est, il y a une image, c'est l'huile, dans la parole de Dieu, l'huile. Il veut nous remplir d'huile pour que notre lampe ne s'éteigne pas et qu'elle brille très très loin. Qu'on soit des témoins, qu'on éclaire le monde. Je vous fais deux lectures. Jean 15, 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Jean 15, 16, « Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, qu'il demeure. » Parce que quand l'homme y fait des choses, c'est passager. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu ces beaux châteaux, etc., qui au bout des années, ils deviennent en ruine, et s'ils ne sont pas entretenus, et lui, ils s'écroulent. Voilà. Tandis que quand Dieu fait quelque chose, rien ne peut l'éteindre, rien ne peut l'enlever, rien ne peut l'effacer, c'est une œuvre éternelle. Vous avez déjà taché une moquette avec de l'eau? Vous avez fait tomber de l'eau sur la moquette, c'est arrivé? Est-ce que c'est grave? Non, on la récupère facilement. La tache, elle s'évapore. Vous avez déjà fait tomber de l'huile sur de la moquette? Moi, j'ai fait tomber de l'huile. Et ça part jamais. Et le Saint-Esprit, c'est l'huile. Ça tâche et ça reste. Ça marque les cœurs et les vies à toujours. Quand on est touché par le Saint-Esprit, ça reste jusqu'à la fin des jours. Et vous savez, même ça m'encourage. Et je voudrais encourager quelqu'un. Peut-être une maman, un papa, peut-être un frère, une sœur ou un enfant qui pense à un proche, qui a connu le Seigneur, qui a été touché par la grâce de Dieu et qui pourtant a vu cette personne s'éloigner. J'aimerais vous encourager. Sachez que la tâche du Saint-Esprit ne s'effacera jamais et que toute leur vie, ces personnes se souviendront de ce qu'ils ont vécu. Il y a le doute, il y a un combat dans les cœurs, ça c'est certain. Mais un jour ou l'autre, ils se souviendront. Et le Seigneur à chaque fois leur donnera l'opportunité de revenir. Il ne les forcera pas, mais ils auront toute leur vie leur choix. Bien sûr, il ne faut pas jouer avec le temps. Et il faut aujourd'hui, si on entend sa voix, faire la paix avec Dieu et revenir à lui. Alors deuxièmement, le fruit de l'Esprit. Et troisièmement, le baptême dans le Saint-Esprit, une promesse. C'est une promesse. Est-ce que vous savez que dans la parole de Dieu, il y a eu cette promesse qui a été faite bien avant la Pentecôte? Qui connaît le prophète qui a annoncé que Dieu répandrait de son esprit sur toute chair? C'est le prophète Joël. Voilà, prophète Joël. Dans Joël, chapitre 2, verset 28, des centaines d'années avant la Pentecôte, puisque la Bible a été écrite en plusieurs fois, par plus de 40 auteurs, et Joël a vécu bien avant la venue de Jésus. Il est dit cela, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Et là, la chose la plus extraordinaire, peut-être dans ce texte, enfin qui complète en tout cas, « Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Vous savez que ça, c'est une parole extraordinaire de la part de Dieu. Le prophète, il n'a pas inventé ça. Il a vraiment été inspiré parce qu'autrefois, les esclaves, comme on les appelait, les esclaves, ils étaient moins que rien. Ils n'avaient pas part aux bénédictions. Ils étaient méprisés. Les gens, les étrangers, généralement les esclaves, ceux qui restaient esclaves, c'était les étrangers. Et pour eux, les étrangers, ils n'avaient pas part à la bénédiction. Ils ne pouvaient pas être sauvés. Ils ne pouvaient pas mériter. Et donc, ils étaient là, ils disaient, mais voilà. Quand ils ont entendu ça par la bouche de Joël, ils ont dû dire, mais il n'a pas tout compris, lui. Et Dieu, il répète et il précise, sur toute chair, même sur les esclaves, même sur les serviteurs, sur les servantes, et ça doit nous réconforter dans la promesse, savoir que toute personne, du moment qu'elle est au Seigneur, peut être remplie, baptisée du Saint-Esprit, et qu'elle peut recevoir la promesse pour elle-même. Cette promesse est valable pour elle, même sur les esclaves, les serviteurs, les servantes. Qu'importe votre statut social, que vous travaillez, que vous soyez au chômage, que vous soyez PDG ou que vous soyez la personne la plus basse dans une entreprise, la promesse est pour vous. Ce n'est pas fonction de notre état social, ni même dans l'Église. Ce n'est pas que pour l'élite. Ce n'est pas que pour l'élite imaginaire, puisqu'il n'y a pas d'élite. Ce n'est pas que pour les pasteurs, ce n'est pas que pour les sonorisateurs, ce n'est pas que pour les chantres, c'est pour chacun d'entre nous. La promesse est pour tous ceux qui croiront. Amen. Acte, on reprend acte, pour le même avec moi. Pour être sûr que c'est bien de cela qu'il était parlé et que ça correspond bien à la Pentecôte, regardez, acte 2, verset 17, ou verset 16, à partir du verset 16, c'est Pierre qui parle, qui répond à ceux qui disent « mais ils sont fous, ils sont pleins, ils sont ivres ». J'entendais les gens parler en langue, ils disaient « mais ils sont ivres ces gens, c'est n'importe quoi ». Pierre se lève et répond verset 16, « mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront, je ferai paraître des prodiges, etc. Alors, à quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Verset 39. Verset 39. Car la promesse est sur vous, pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Ça fait combien de temps qu'il y a eu la Pentecôte? Comment? Pas loin de 2000 ans. Ça fait 1900, au moins 1970 ans, voire 80 ans. Est-ce que c'est valable encore pour nous aujourd'hui? Ou est-ce que c'est passé? Vous savez que dans ma vie, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « c'est fini, les langues, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est fini, ça n'existe plus. » Oui, il y a des gens qui me l'ont dit. Ils m'ont dit « c'est fini, les langues, c'est dit, hein, les langues s'éteindront, etc. » Mais c'est pas de ça qu'il est parlé. Il est parlé du retour du Seigneur Jésus. Et après. Mais en attendant, la promesse est valable pour un aussi grand nombre qui seront appelés aussi loin dans le temps qu'on sera appelé au salut et qu'on y répondra, bien sûr. Si Jésus est mon sauveur, si Dieu est mon Père, la promesse du Saint-Esprit est pour moi. Et ça, il faut que je le croie, il faut que nous le croyons, c'est la parole de Dieu. Au verset 38, il est dit quelque chose de très important. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Je ne peux pas recevoir le baptême dans le Saint-Esprit si je ne suis pas passé par la repentance. Et si je n'ai pas au moins le désir de m'engager avec Dieu par les eaux du baptême. Est-ce que quelqu'un a été baptisé dans le Saint-Esprit avant de se faire baptiser? C'est arrivé. Il y a un désir dans nos cœurs, on l'a demandé, Dieu l'a voulu ainsi. Est-ce qu'il y en a qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit après le baptême? Il y en a. Moi, c'était avant, mais il y en a après. Et c'est très important de chercher cette chose. C'est comme un dynamisme, une puissance qui vient. Le mot utilisé en grec, c'est le mot dynamisme, qui a donné le mot dynamite. C'est de la dynamite. Vous connaissez ça, cette expression? C'est de la dynamite. Et avec le Saint-Esprit, c'est de la dynamite. Il y a un dynamisme, il y a une puissance qui est là. Et on en a tous besoin. Comment recevoir le baptême dans le Saint-Esprit? Très important. Prenez avec moi Jean, au chapitre 7, Jean 7, et au verset 37. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si quelqu'un a soif. Comment on pourrait le dire d'autre? Si quelqu'un a envie. si quelqu'un désire, si quelqu'un cherche, si quelqu'un le demande, si quelqu'un en a besoin. Diverses expressions qui nous montrent qu'il y a une part à faire nous-mêmes, une recherche, si quelqu'un a soif. Vous savez, le jour de la fête dont il est parlé là, c'était une fête chez les Juifs qu'on appelait la fête des fontaines. Il y avait toute une procession qui partait d'un fleuve, et des gens prenaient des seaux, des gens prenaient des cruches, et ils prenaient ça sur leur dos, et ils montaient, ils allaient jusqu'à cette fontaine, cette source-là. Et il y avait la fête des sources, fête des fontaines. Et ils arrivaient, là, etc. Et on buvait, et on se réjouissait. Il y avait une grande fête à cette époque-là. Et Jésus se met debout et commence à crier. S'il y en a un qui a soif, là, on comprend mieux avec le contexte. Dites-vous, vous allez tous là boire de l'eau comme ça, vous désaltérer, c'est bien quand même, non? Se désaltérer, c'est bien. Mais si quelqu'un a soif d'autre chose, de quoi on peut avoir soif? Soif de paix? Soif de consolation? Soif de joie? Soif de justice? Soif de pardon? Etc. Si quelqu'un a soif, c'est vers moi qu'il faut venir. Il dit, c'est pas une fontaine comme ça. C'est pas une star. Il y a des stars dans le monde, hein, vous savez. Il y a des vedettes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Jésus dit, s'il y en a un qui a soif, c'est vers moi. Venez à moi. Venez à moi. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, même des fleuves d'eau vive vont jaillir, couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il parle de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Si quelqu'un a soif, peut-être que quelqu'un est baptisé depuis un moment, engagé avec le Seigneur. Peut-être que quelqu'un sert le Seigneur, mais il n'a pas de joie. La joie lui manque. Ah, de temps en temps, il y a des sujets de joie, des petites choses, mais il voudrait tellement plus. Il a soif de plus de vie, plus de Dieu, plus de Jésus, plus de sa présence, plus de force pour tenir face aux critiques, face aux moqueries, face à la persécution que peut y avoir autour, la moquerie, tout ça, face aux circonstances, face aux doutes. Le Seigneur, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Comment être baptisé dans le Saint-Esprit? Viens à Jésus. Viens au pied de Jésus. Demande-lui au Seigneur Jésus, dans ton cœur, fais cette prière. Seigneur Jésus, j'ai soif de toi. J'ai soif de plus de toi, j'ai besoin de toi, j'ai envie de vivre autre chose, je ne veux pas me satisfaire de ce que je connais déjà. Je veux vivre la vie, je veux vivre l'évangile, je veux voir des choses se passer autour de moi, je veux être utile dans ta maison, je veux recevoir divers fruits de l'esprit et divers charismes aussi. Qu'est-ce que c'est que ça le charisme? C'est quoi ce nom? Ce qu'on appelle les dons spirituels, des manifestations spirituelles. Je voudrais pouvoir prophétiser, Seigneur. Je voudrais pouvoir annoncer une parole qui ne sort pas de moi, qui vient de toi et qui correspond aux besoins de quelqu'un dans l'assemblée. Quelqu'un a déjà été touché par un don spirituel? Moi, j'ai été touché. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? C'est qu'il avait un souci, il pose une question à Dieu, il dit, Seigneur, réponds-moi, j'ai tel besoin, réponds-moi ce matin. Vous allez au culte et comme par hasard, il y a une prophétie qui est là et ça répond à votre besoin. Moi, j'ai vécu ça à plusieurs reprises. Je demandais conseil au Seigneur quand je devais épouser Stéphanie. On n'était pas encore fiancés. Et je dis, Seigneur, je suis amoureux d'elle. Est-ce que ça arrive d'être amoureux? Oui. Ça arrive. Est-ce que ça arrive d'avoir des sentiments pour quelqu'un? Ah oui. Est-ce que c'est mal? Bah non, pas du tout. L'important, c'est que Dieu puisse guider nos sentiments. Qu'on puisse éprouver nos sentiments face à Dieu pour qu'il puisse nous conseiller. Il est un conseiller, le Seigneur aussi. Admirable, conseiller. C'est son nom, le Seigneur Jésus. Et j'ai dit, Seigneur, voilà, parle-moi, rassure-moi. Montre-moi que c'est une personne qui est sérieuse, etc. Elle n'était pas là, elle était à Paris, en stage, depuis quelques mois. Et puis le Seigneur a parlé à mon cœur. Quelqu'un a parlé, a répondu mot pour mot à la question que j'avais posée. Tu as posé telle question au Seigneur, le Seigneur te dit ça. Personne ne savait. Qui savait? Le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus et Dieu. Et parce qu'il m'aime, il m'a répondu. Est-ce que vous ne voulez pas être utile comme ça? Comme cette personne qui m'a été utile? Tirant, moi je demande au Seigneur, j'aspire aux manifestations spirituelles, comme c'est conseillé dans 1 Corinthiens. J'aspire à ces choses. Jean disait ceci, Moi, je vous baptise dans l'eau. Mais voici celui qui vient, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et baptisera de feu. Jésus est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. C'est à lui qu'il faut demander. Seigneur, je viens à toutes les réunions, je suis sérieux, je t'aime. Vraiment, je manque de rien, Seigneur. J'ai tout ce qu'il me faut, mais je voudrais vivre des choses avec toi. Seigneur, j'ai soif de plus de toi. Fais-moi vivre quelque chose. Je veux rentrer dans ta présence. Je voudrais que mes prières prennent une autre dimension, que ce ne soit pas platonique, intellectuel simplement. Je voudrais vraiment que ce soit tout mon cœur. Et des fois, je ne sais pas quoi dire. J'ai besoin de ton secours. J'ai besoin du Saint-Esprit pour savoir comment prier, pourquoi prier. Et même des fois, je ne sais pas, mais j'ai juste besoin que ça déborde de mon cœur. Et vous avez vu ce qui s'est passé à la Pentecôte ? Ils ont parlé en langue. Oh, ils ont parlé en langue. Est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que c'est pas de Dieu? Est-ce que c'est encore pour aujourd'hui? Est-ce que c'est obligatoire pour le baptême dans le Saint-Esprit? Peu importe. Peu importe, je ne veux même pas rentrer dans ce débat. J'ai renoncé à ça. Mais si ça existe, pourquoi ne pas le souhaiter? Si le Seigneur l'a promis, si c'est ce qui est arrivé à ceux qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, pourquoi ne pas le souhaiter? Si quelqu'un dit, moi j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, mais je ne parle pas en langue. Eh bien alors pourquoi tu ne cherches pas? Tu ne demandes pas au Seigneur? Eh bien donne-moi les langues. Puisqu'il est dit que quand on parle en langue, on s'édifie soi-même. Qui n'a pas besoin d'édification? Qui n'a pas besoin d'être exhorté par le Seigneur, encouragé? Moi, j'en ai besoin. Et c'est pourtant ce qu'on fait quand on parle en langue. Et c'est une chose à laquelle on doit aspirer. Le baptême dans le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, les disciples de Jésus furent baptisés dans le Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Vous pourrez le trouver dans Actes 2-4. S'attendre à être baptisé dans le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Prenez avec moi Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et ça commence juste après au verset 19, « Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Et littéralement en grec, c'est « Soyez constamment remplis de l'Esprit. » Et encore plus précisément, le temps qui est employé, c'est « Soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit. » Est-ce qu'il y a besoin d'une position physique spéciale pour être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que Dieu ne remplit du Saint-Esprit que ceux qui sont à genoux? Est-ce qu'il faut joindre les mains comme ça? On a compris que ce n'est pas une question de position physique, c'est une question de soif de cœur. Si tu as soif, si tu le veux de tout ton cœur, le Seigneur te le donne parce qu'il l'a promis et parce qu'il sait qu'il en a besoin pour être efficace dans son service. Je dois chaque jour revenir à la source. La source, c'est Jésus. La fontaine, c'est Jésus. Fontaine d'eau claire, fontaine d'eau rafraîchissante, c'est Jésus-Christ. Et il faut revenir chaque jour à la source pour être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez votre culte personnel tous les jours? Une question qu'on doit se poser. C'est bien de répondre à votre, mais d'abord dans le cœur, face à Dieu. Est-ce que j'ai mon culte personnel pour pouvoir être renouvelé chaque jour, chaque jour, chaque jour? Vous savez, avant, ils n'avaient pas le robinet. Hein. Aujourd'hui, c'est facile. Hein. On tourne la molette, là, et l'eau est cool. Froide, chaud, comme on veut, etc., tiède, on règle un peu, c'est facile. Autrefois, il fallait prendre du temps, il fallait prendre les seaux, il y avait des fois une petite poutre, là, je mettais deux ficelles avec deux seaux, et puis j'allais, pour en prendre deux à la fois, j'allais, hop! Des fois, il y avait les pompes nouvelles, toutes automatisées à la main, et on tournait. Je vais habiter une maison dans quelques jours, il y a ce système, vous savez, la pompe, hop, à la main comme ça. Et autrefois même, il y avait le puits, on descendait dans le puits, on allait plonger le seau, et hop, il se remplissait d'eau, et après on tirait. N'est-ce pas une image aussi de ce qu'on doit faire, nous qui ne sommes que des vases? En tant qu'hommes et femmes, nous sommes des vases, qu'on peut être remplis de diverses choses. Et Dieu voudrait nous remplir du Saint-Esprit. On est là, on est plongé. Hop, le vase, avec le poids, il commence à descendre, il descend. L'eau ne rentre pas, puis d'un coup, il passe la limite de l'eau. Fouf, et l'eau est rentrée. Brrr, là, il descend tout au fond. Et des fois, il nous faut aller profondeur dans la présence de Dieu. Descendre dans la profondeur, dans l'intimité avec Dieu. Ça ne suffit pas de rester en surface. L'eau, elle est au fond. Et il faut descendre. Et dire, Seigneur, je m'humilie, je descends, je m'abaisse moi-même. De l'humilité aussi. Je m'abaisse. Et puis au bout d'un moment, je suis envahi de la présence de Dieu. Envahi. Et alors je peux ressortir et pouvoir distribuer aux autres qui en ont besoin. Ça coûte du temps. Ça coûte de la persévérance. Mais au final, la promesse est certaine. Le Seigneur baptise dans le Saint-Esprit. Et quelle grâce quand on vit cette différence. Quand on parle en langue, on s'édifie soi-même. Si je prie en langue, mon esprit est en prière. Dans 1 Corinthiens 14, 4 et 14. Quand je prie en langue, ce n'est pas mon intelligence qui est en prière. C'est mon esprit qui est en prière, qui est en communion avec Dieu. Quand je ne sais plus quoi dire, je compte sur le Seigneur pour m'accorder tout cela. C'est resté très simple, mais je ne veux pas aller plus profond. Je méditerai ça une autre fois. Simplement, je conclurai. Est-ce que vous avez envie d'être utile dans les mains de Dieu en attendant son retour? Est-ce qu'on est conscient que Jésus revient bientôt et qu'il nous faut travailler pour qu'un maximum soit sauvé? N'avez-vous pas des proches que vous voulez voir au Seigneur? N'avez-vous pas de la famille que vous voulez être touché par le Seigneur Jésus, sauvé, être sûr, pouvoir dormir tranquille? Les miens sont au Seigneur, je sais qu'ils m'accompagneront, je peux quitter cette terre en paix. Eux, ils ont pris le relais et ils parlent à leur tour. Et pour être le plus efficace possible, il faut être le plus rempli possible de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Amen. Qu'on comprenne que nous ne sommes que des vases et que le Saint-Esprit n'ira pas avec mes souillures, avec mon péché. Et pour être rempli du Saint-Esprit, il faut renoncer au péché, renoncer aux œuvres mortes, ça c'est sûr. Ça fait partie du programme. Mais quelle est belle la récompense quand on renonce aux choses, finalement, après coup, qui paraissent si vaines et si ternes du monde, pour accepter la grâce de Dieu et la beauté de la présence de Dieu. Ce matin, M. Gau nous parlait de ça. Il disait, pour un enfant de 6 mois, pour un bébé de 6 mois, qu'est-ce qui est le plus important ? Les miracles, je rajoute un peu. Même les promesses futures ou la présence de la maman. Vous lui dites, tu sais, je te promets qu'à 18 ans, je t'offrirai une voiture. À 6 mois, il va vous regarder, ça lui fera ni chaud ni froid. Mais par contre, quand la maman est absente et quand la maman est présente, il y a une différence. Là, ça lui fait quelque chose. Il a besoin de sentir la présence. Un enfant. C'est pas vrai? Et quand il sent plus la présence de sa maman, il en a besoin. Et le Saint-Esprit nous rend sensibles à la présence de Dieu. Il nous rend sensibles aux choses spirituelles. Il nous donne du discernement des esprits et toutes les choses dont on a tant besoin. Si je veux glorifier le Seigneur en laissant le Saint-Esprit agir dans ma vie, il faut que je puisse porter du fruit. Ça c'est sûr, qu'on porte tous du fruit et qu'on recherche tous le baptême dans le Saint-Esprit. Cherchez-le. Vous ne savez pas trop, c'est encore flou dans vos têtes. Dans vos esprits, lisez la parole. Demandez au Seigneur de vous éclairer, de vous conduire. Méditez ces choses et le Seigneur le fera. Cherchez, ayez soif et le Seigneur vous désaltérera par l'accomplissement de ses promesses. Amen. Je voudrais lire un témoignage que j'ai trouvé tout à l'heure. Le témoignage d'une personne qui a été baptisée dans le Saint-Esprit. Notre conversion à Jésus-Christ avait radicalement changé notre couple. Auparavant, nous vivions pour nous-mêmes, cherchant à acquérir une situation de plus en plus confortable et trouvant quelques joies éphémères dans les plaisirs mondains. Après, notre vie ne nous appartenait plus. Nous l'avions donnée à Dieu et nous n'avions qu'un désir, le servir. Cette transformation était l'œuvre du Saint-Esprit. Mais il nous manquait ce que Jésus avait promis pour que notre service soit fructueux, le revêtement de puissance, c'est-à-dire le baptême dans le Saint-Esprit. Avez-vous connu la soif? Probablement pas celle qui saisit le voyageur perdu dans le désert, mais celle, plus banale, provoquée par l'interdiction ou l'impossibilité de boire pour une raison médicale ou autre. Le désir d'un peu d'eau vous hante, vous poursuit. S'il n'est pas satisfait, vous pensez mourir, vous seriez prêt à tout pour l'assouvir. Cette sensation n'est pas seulement matérielle. Qui ne connaît pas la soif du bonheur, de paix et de joie intérieure? Dans le domaine spirituel, c'est la soif de la bénédiction de Dieu. La soif de sa présence. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. nous étions impatients de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, mais Dieu nous a fait attendre un peu. Cette attente provoqua en nous une soif ardente. Elle nous tenaillait à un tel point que très peu de temps avant qu'il reçoive cette bénédiction, mon époux avait fait cette prière et la réponse ne tarda plus. Jésus le baptisa dans le Saint-Esprit. Bien qu'ayant déjà expérimenté une profonde repentance, cette soif nous poussa à rechercher dans les moindres détails la purification de notre vie passée, afin qu'il n'y ait aucun obstacle à la bénédiction, car l'Esprit de Dieu est saint et ne remplit pas les vases que nous sommes où subsisterait encore quelque impureté, c'est-à-dire des péchés non confessés et non abandonnés. Personnellement, ce temps d'attente se poursuivit durant nos vacances que nous passions en Alsace dans une pension dirigée par un pasteur et son épouse. Sur leur conseil, je me suis tenu dans la présence du Seigneur, seul, dans notre chambre. Je me revois ensuite, comme si c'était hier, assise en pleine nature, auprès de mon mari et de frères et sœurs en Christ, également en vacances. Nous persévérions dans la prière quand tout à coup le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendit, sa puissance envahit tout mon être, se saisit de ma voix. Autour de moi, la prière se faisait plus ardente et j'entendis quelqu'un prier. Cette demande fut exaucée presque immédiatement. Un langage distinct me fut donné. Il jaillissait de moi comme une eau qui s'écoule. Le temps n'existait plus. Lorsqu'au bout d'un certain temps, tous s'éloignèrent, je restais là, continuant à chanter et à parler dans le langage céleste. Quand plus tard, tout ému de la visitation du Seigneur, je revins à la pension, je n'étais plus la même. Sans que je le réalise encore, Dieu venait de faire de moi une missionnaire. Car c'est bien là le but du baptême dans le Saint-Esprit, faire de nous des témoins, mettre en nous l'amour pour les âmes perdues, nous abreuver de l'eau vive du ciel afin qu'elle jaillisse sur les autres pour la vie éternelle. J'ajouterai quelques précisions sur le parler en langue. Combien je bénis Dieu pour ce don. Certains le méprisent ou le considèrent comme le plus petit, alors qu'il est d'une grande utilité. Dans les jours sombres de ma vie, lorsque je ne savais plus comment prier, le Saint-Esprit priait au travers de moi et une grande paix m'envahissait. Parler en langue me permettait d'exprimer ma reconnaissance et de louer mon Dieu dans un langage bien supérieur aux mots humains. Il m'aide à intercéder d'une manière exacte pour des personnes, car Dieu connaît d'elles ce que moi j'ignore. Il me procure une merveilleuse communion avec mon Seigneur, et comme il est écrit dans l'Épître aux Corinthiens, je m'édifie moi-même. Je m'arrête là, mais tellement elle est joyeuse qu'elle continue. Et cette personne, en guise d'humilité, a voulu rester anonyme. Mais elle précise qu'aujourd'hui elle est missionnaire, et que depuis ce jour, elle a voulu servir le Seigneur de tout son cœur. Il y a une soif de parler aux gens qui a grandi, et d'être au service de Dieu, qui a grandi. Et peut-être quelqu'un, même s'il a vécu le baptême dans le Saint-Esprit il y a tant de temps, aujourd'hui se sent sec, se sent fade. Et le Seigneur Jésus voudrait ranimer cette fraîcheur dans nos vies et dire « Cherche à nouveau le baptême dans le Saint-Esprit, cherche ma présence, cherche une communion, sois continuellement renouvelé, rempli du Saint-Esprit. Ce dont tu as besoin, c'est de ma puissance, de mon dynamisme. Ce dont tu as besoin, c'est d'être transformé pour être un témoin efficace. » D'être rempli de l'amour de Dieu, de l'amour pour Dieu et pour les âmes perdues. Et seul le Saint-Esprit peut changer ça. S'il y a besoin de toute la puissance du Saint-Esprit pour ressusciter quelqu'un comme Jésus a été ressuscité, s'il y a besoin de toute la puissance du Saint-Esprit pour que quelqu'un soit convaincu et que les paroles, les plus beaux sermons ne servent à rien sans le Saint-Esprit, s'il y a besoin de toute la puissance du Saint-Esprit pour faire naître quelqu'un de nouveau, il y a besoin de toute la puissance du Saint-Esprit pour être des témoins efficaces. Cherchons-le de tout notre cœur.